Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, c'est un épisode peu connu en Europe de l'histoire des Pays-Bas, royaume qui lui aussi a été une puissance coloniale. 67 ans après une cruelle guerre d'indépendance en Indonésie, le gouvernement néerlandais vient tout juste d'accepter de financer une enquête sur les exactions qui ont eu lieu pendant toute cette période, notamment les violences militaires néerlandaises à l'encontre des indépendantistes et des civils. Au total, la guerre aurait fait plus de 150 000 morts, sauf qu'aux Pays-Bas, le sujet est encore tabou. Reportage à Amsterdam et à La Haye, Antoine Moutot.
En plein centre d'Amsterdam, au numéro 380 du Herengracht, la maison Nienhuis fait de l'ombre aux autres bâtiments de la rue. Ce petit palais a été construit en 1881 sur ordre de Jacob Nienhuis, un richissime néerlandais qui avait fait fortune grâce à des plantations de tabac sur l'île de Sumatra aux Indes néerlandaises. Aujourd'hui, ironie du sort, la maison Nienhuis abrite le NIOD, l'Institut d'études de la guerre, qui est chargé d'enquêter sur la guerre d'indépendance en Indonésie. Tout au fond de la bibliothèque de l'Institut, Peter Romein a le nez plongé dans un livre. Ce chercheur est comblé depuis que le gouvernement néerlandais a enfin décidé de soutenir son travail. Mais il le sait, ce sujet est encore tabou aux Pays-Bas.
La guerre de décolonisation menée en Indonésie a toujours été une question sensible. Cette page de l'histoire est encore controversée. Tout comme la question de la responsabilité des Pays-Bas ou celle de la culpabilité du pays dans les crimes de guerre. Pour certains, plus concrètement, cela revient aussi à se demander si leur père ou leur grand-père sont des criminels.
Une question que s'est d'ailleurs posée lui-même Peter Romein, puisque son père, alors soldat, a été envoyé en Indonésie pour combattre les indépendantistes indonésiens. Entre 1945 et 1949, la guerre d'indépendance fait rage en Indonésie. Pour mater l'insurrection, le gouvernement néerlandais décide d'envoyer plus de 100 000 soldats sur place. En décembre 1949, l'indépendance est définitivement reconnue. Aux Pays-Bas, 68 ans plus tard, on trouve encore de très nombreuses traces de la période coloniale et des Indes néerlandaises, comme par exemple des noms de rues, Sumatra Straat, Java Straat, Bali Straat, et puis il y a ces très nombreux rapatriés des Indes néerlandaises et leurs enfants, les métis indo-néerlandais, les ex-supplétifs de l'armée, comme les Moluquois, ou encore les anciens colons. Dans son appartement à Wassenaar, près de La Haye, Yoti Terkulve, 90 ans, repense tous les jours à l'Indonésie. Yoti est une métisse indo-néerlandaise. Elle est née sur l'île de Java et elle a grandi dans la maison où seront plus tard signés les premiers accords entre les Pays-Bas et les nationalistes indonésiens.
Bien sûr que l'Indonésie me manque. C'était le pays de ma mère et de mon père.
L'ouverture de l'enquête fait remonter beaucoup de souvenirs.
Je n'aurais jamais pensé partir. Mais avec la guerre, il fallait s'enfuir. J'avais 18 ans, je n'avais pas d'argent et je ne connaissais personne aux Pays-Bas. Mais j'ai dit à ma mère, je m'en vais maintenant.
Il faut dire que lorsque la guerre d'indépendance éclate, Yoti a déjà été traumatisé par le deuxième conflit mondial. En Europe, les Pays-Bas étaient occupés par l'Allemagne nazie, l'Indonésie, elle, est soumise au régime japonais. Et les colons néerlandais et certains métis comme Yoti avaient été pendant des années internés dans des camps de concentration japonais.
C'était vraiment horrible et ça a duré très longtemps avant que je puisse en parler. Vous savez, c'est là que j'ai appris ce que c'est que d'avoir vraiment faim, ce que c'est de voir des gens en train de mourir à côté de vous.
À la sortie du camp de concentration, lorsque les Japonais perdent la guerre, elle trouve une Indonésie divisée entre populations pro-néerlandaises et indépendantistes indonésiens. Elle est alors témoin de nombreuses atrocités.
Les Néerlandais et les Indonésiens étaient retranchés chacun de leur côté. Un ami, il avait peut-être 17 ans, a décidé d'aller planter le drapeau néerlandais chez les Indonésiens. Malheureusement, il est tombé entre leurs mains et ils l'ont découpé en morceaux. Et puis un jour, notre jardinier indonésien est venu à pied pour nous voir à Bandung et à cause de ça, des Indonésiens l'ont tué.
Yoti sait que les militaires néerlandais ont eux aussi commis de très graves exactions. Mais aujourd'hui, elle juge qu'il faut surtout se pencher sur la responsabilité des politiques de l'époque.
Mon mari était soldat et il avait un ami mort de peur. qui mitraillait dès qu'il entendait le moindre bruit, même ceux des serpents. Le plus important pour moi, ce serait qu'il y ait plutôt une enquête parlementaire sur les raisons pour lesquelles le gouvernement néerlandais a envoyé 100 000 soldats. Il ne les avait pas envoyés pour libérer les Indes, comme il le prétendait, mais pour mettre la main sur les entreprises sur place, car il fallait reconstruire les Pays-Bas.
Comme de nombreux rapatriés, Yoti n'est pas sûr que cette enquête rapprochera les Néerlandais des Indonésiens. Mais le gouvernement, lui, y croit. Coïncidence, quelques jours avant l'annonce de l'ouverture de l'enquête, le Premier ministre Mark Rutte était en visite officielle à Jakarta. L'Indonésie est désormais une puissance asiatique avec laquelle les Pays-Bas aimeraient bien pouvoir entretenir de bonnes relations.
Always be polite.
You're rude sometimes.
Be polite.
You're rude to me.
Be polite. Polite to everybody.
Et oui, enseigner les bonnes manières so British aux immigrants, voilà une bonne façon de les intégrer. C'est en tout cas l'une des propositions de Louise Cazet, chargée de la question. Au Royaume-Uni, les thèmes tournant autour de l'immigration et de l'intégration sont devenus très sensibles depuis le vote pour le Brexit. Entre 2015 et 2016, le Royaume note 335 000 arrivées. C'est trop pour les conservateurs, mais en plus, ces migrants seraient mal éduqués. Marie Billon.
Louise Cazet est appelée la reine de l'intégration, The Integration Tsar. Elle est chargée par le gouvernement d'étudier la qualité de l'insertion des immigrés dans la société britannique et de faire des propositions pour l'améliorer. Il y a quelques jours, Louise Cazet a été interrogée par une commission parlementaire. Selon elle, les autorités n'essaient pas assez d'inculquer les valeurs britanniques aux nouveaux venus. Pour l'instant, dit-elle, l'intégration n'est pas une voie à double sens au Royaume-Uni. La société tente de s'accommoder des immigrants, mais eux n'essaie pas assez de se couler dans le moule. Louise Cazet explique avoir tenu une réunion à Sheffield dans le nord de l'Angleterre avec des ressortissants de l'Europe de l'Est récemment arrivés au Royaume-Uni. Personne ne leur a parlé de notre façon de vivre, plus précisément, ajoute-t-elle. Ils ne savent pas quand il faut être poli, ils ne savent pas quel jour sortir les poubelles, ils ne savent pas qu'il faut faire la queue. Les Britanniques sont connus pour être les champions de la file d'attente sagement ordonnée. Quand les métros sont bondés, il n'est pas rare de voir de longues queues juste devant les portes, au lieu d'un amas de voyageurs se poussant pour rentrer dans le wagon. Une scène qui semble cocasse, mais qui serait le fondement de la société britannique, selon Louise Cazet. La reine de l'intégration souhaite donc que chaque migrant prête un serment d'allégeance à la couronne quand il vient s'installer au Royaume-Uni. Et ce ne serait pas une mauvaise idée, dit-elle, d'instaurer des leçons d'art de vivre à la British. Pour l'instant, seuls ceux qui veulent devenir britanniques doivent passer ce genre de test et prêter serment.
Il en est une, en tout cas, qui connaît les bonnes manières. C'est Barbara Yatta, tombée dedans quand elle était enfant. La nouvelle conservatrice des musées du Vatican s'est frayée dans le monde policé de l'Église catholique. Et c'est ainsi qu'elle a été nommée par le pape François, la tête de cette vénérable institution, vieille de plus de 500 ans. Une première qui souligne encore la nouvelle politique du pape. Olivier Bonnel nous appelle du Vatican.
Barbara Yatta est le symbole d'une révolution. Elle est la première femme à la tête des musées du Vatican, institution créée en 1506 par le pape Jules II. Une consécration pour cette romaine de 54 ans, choisie par le pape François pour diriger l'un des plus prestigieux musées du monde. Les musées du Vatican, ce sont 12 sections qui présentent des collections étrusques, égyptiennes, grégoriennes et bien sûr les maîtres de la Renaissance, sans oublier son trésor, la chapelle Sixtine, où 6 millions de visiteurs se pressent chaque année. Grand-mère peintre, grand-père architecte, mère restauratrice, Barbara Yatta est tombée dans l'art quand elle était petite. C'est en 1996 qu'elle pousse la porte du Vatican à la bibliothèque apostolique où elle est nommée responsable du cabinet des estampes avant d'être conservatrice des arts graphiques du département des estampes. Cette mère de 3 enfants a la lourde charge de piloter un musée où la fréquentation augmente chaque année. Elle succède aussi au charismatique Antonio Paolucci, ancien ministre de la culture italien et qui a dirigé les lieux pendant 10 ans. Une période marquée par une politique d'ouverture au monde en témoigne par exemple ses 42 toiles de Raphaël, Bellini ou du Caravage qui ont quitté Rome et sont actuellement exposés à Moscou. Barbara Yatta souhaite plutôt mettre en valeur les chefs-d'œuvre de ses collections dans leur écrin du Vatican, faire découvrir aussi des collections moins connues ou développer les parcours pédagogiques pour les enfants. Les musées du Vatican font peau neuve, comme les chambres de Raphaël récemment restaurées. Ils ont un site internet flambant neuf avec visite virtuelle de ses trésors et 4000 œuvres déjà cataloguées. Les 20 000 pièces exposées en permanence devraient être toutes référencées d'ici un an, a promis la nouvelle directrice.
Nous partons dans l'est de la France, où Strasbourg s'enorgueillit de son fameux quartier allemand, la Neustadt. Le quartier a été construit entre 1871 et 1918 et il représente l'un des rares témoignages de ce qu'était une ville allemande avant les bombardements de 1944 et qui ont détruit les métropoles germaniques. La capitale européenne veut donc la faire inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour promouvoir cette candidature, la ville lance une campagne de soutien auprès de ses habitants. C'est le reportage de Corinne Fugler.
Au début du XXe siècle, le tram traversait déjà la capitale alsacienne et la Neustadt, la ville nouvelle. À l'exemple de la métamorphose engagée à Paris quelques décennies plus tôt par le baron Haussmann, Strasbourg venait de gagner de nouvelles artères et des immeubles majestueux. Rémi Baudru est architecte du patrimoine à la ville de Strasbourg.
Ce qui est très intéressant dans la Neustadt, c'est d'avoir un ensemble urbain qui est arrivé jusqu'à nous à peu près intact, tel que l'ont conçu au départ à la fois les urbanistes et les architectes de chacun des bâtiments.
Les nouveaux quartiers de la capitale du Reichsland d'Alsace-Moselle ont été dessinés par des architectes alsaciens et allemands. Ils constituent un témoignage unique en Europe de l'urbanisme de cette époque.
Quasiment partout, on a une interaction entre les influences françaises et allemandes. Alors c'est vrai que la Neustadt est très germanique, mais n'oublions pas que l'architecte, l'urbaniste qui a conçu au départ la Neustadt était l'urbaniste qui était en place avant 1870. C'est les mêmes équipes qui étaient là. Ce sont des Strasbourgeois, des Alsaciens qui ont fait une grande partie de la Neustadt, ce qui explique le fait qu'on a des influences des deux côtés du Rhin à Strasbourg, et y compris dans la Neustadt.
Cet architecte strasbourgeois s'appelait Jean Geoffroy Conrad. Il a travaillé avec le berlinois Johann Karl Roth. En 1871, les nouveaux venus décident de construire à Strasbourg la plus grande université de l'Empire, une véritable vitrine du Reich avec ses bâtiments dédiés à la physique, la chimie ou la botanique. Au centre de la Neustadt, le palais universitaire fait face au palais impérial, l'actuel palais du Rhin, grand bâtiment d'influence baroque. Le palais U, comme on l'appelle aujourd'hui, a été édifié autour de son aula comme un palais de la Renaissance. Il accueille aujourd'hui encore une bonne partie des 48 000 étudiants strasbourgeois, comme Karina, jeune brésilienne inscrite en philosophie.
Ouais, je trouve que le bâtiment il est extraordinaire. Et à chaque fois que je rentre ici dans le palais U, ça m'étonne d'une certaine façon. Je n'avais pas du tout l'habitude d'avoir ce genre de bâtiment à l'université dans mon pays. Et je pense que juste s'asseoir ici, lire un peu, travailler ou même regarder, c'est déjà super.
Thibault, lui, est inscrit en master d'histoire moderne.
La première fois, ça fait effectivement une certaine impression. C'est assez impressionnant. C'est absolument magnifique. Toutes ces dorures, ces couleurs. Je ressens un peu de prestige universitaire.
Et dehors, quand il arpente les rues qui entourent le palais U, Thibault aussi lève le nez.
Je suis très curieux, systématiquement, je regarde les bâtiments, je découvre des nouveaux détails. Je ne fais pas d'histoire de l'art, mais c'est toujours intéressant d'observer vraiment cette marque architecturale allemande de la fin du 19e.
Lorraine, justement, étudie l'histoire de l'art dans les salles du Palais U. Elle passera bientôt sa licence.
C'est un bâtiment qui a vécu beaucoup de périodes de l'histoire. Je sais que notamment, il y a les nazis qui se sont réunis dans ce bâtiment. Donc du coup, je trouve que c'est un bâtiment important pour se souvenir de ce qui s'est passé dans notre pays. Je sais que ça a été construit pour être la vitrine des Allemands qui voulaient montrer ce qu'ils étaient capables de faire à l'époque pour se frimer un peu devant les Français. Et, c'est vrai qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'impressionnant avec des colonnes ioniques, des choses comme ça, c'est impressionnant quoi.
Le vieux centre de Strasbourg qu'on appelle la Grande Île est déjà inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988 avec sa cathédrale gothique, ses maisons à colombages et ses bâtiments de la Renaissance. Mais la ville aimerait que l'UNESCO étende le périmètre inscrit sur sa liste à la Neustadt. Rémi Baudru.
Le grand intérêt d'être inscrit sur cette liste, c'est que ça nous oblige à avoir une vision transversale, une gestion de cet ensemble qui ne soit pas faite de façon parcellaire, mais qui soit faite avec une vision globale. C'est-à-dire que depuis le ramassage des poubelles, en passant par la qualité des enseignes, par les aménagements urbains, la qualité des menuiseries, des toitures, enfin l'ensemble des interventions qui sont faites à la fois par les services de l'État, de la ville, sont maintenant dans une cohérence de façon à ce qu'elles soient toutes organisées pour faire en sorte que ce qui est exceptionnel soit préservé et conservé pour le futur.
Le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO doit trancher en juillet à Cracovie, en Pologne. En attendant, les Strasbourgeois qui ont longtemps refoulé leur passé allemand peuvent déposer leurs remarques et leurs encouragements en ligne sur le site de la mairie.
Musique.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors vous nous amenez aujourd'hui à la rencontre de la poésie au Portugal.
De la beauté et du mystère. C'est le programme que je vous propose aujourd'hui avec la chanteuse portugaise Lula Pena. Le mystère, c'est celui qu'elle entretient en ne laissant filer qu'au compte-gouttes les informations biographiques et les chansons aussi. Trois albums seulement en 20 ans pour cette auteure, compositrice, guitariste et poète de 42 ans. Le premier, c'était en 98, le deuxième en 2010 et le troisième, Archivo Pittoresco, paraît cette semaine. N'allez pas chercher la beauté plus loin, elle se love dans ses 13 nouvelles chansons qui naviguent entre plusieurs genres, folk, bossa, blues, flamenco ou fado, et plusieurs langues aussi, portugais, espagnol, français, grec ou italien. Lula Pena n'a que faire des étiquettes et des frontières. Le territoire mouvant où elle nous invite, c'est celui de la poésie.
Avec Ausencia à la réalisation d'Accent, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr et sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants le journal.
Venez découvrir